Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Très heureux de vous retrouver sur les ondes de Mehdi 1 Radio pour cette nouvelle saison de Coémergence. Notre objectif reste le même, encourager les échanges économiques sud-sud et particulièrement entre le Maroc et ses partenaires du continent. Dans ce premier numéro de la saison, nous allons parler des évolutions en cours dans le secteur des assurances en Afrique. Le deal entre le Sud-Africain Sanlam et l'Allemand Allianz a connu des développements intéressants. Au cours de cette semaine, quelles en sont les répercussions au Maroc et à travers le continent? Vous aurez les détails dans le Zoom Express. Notre invité s'appelle Kwame Senou. Il est le président de l'agence Holding Opinion and Public. Avec lui, nous parlerons de la nécessité de réadapter la communication des gouvernements dans le contexte actuel, marqué par des bouleversements politiques sur le continent. Il nous parlera aussi de la conférence internationale sur les gouvernements et les communications prévue en novembre prochain à Abidjan. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais dans les titres, les deux géants dans le secteur des assurances, à savoir Sanlam et Allianz, ont annoncé au cours de cette semaine la concrétisation de leur alliance qui donne naissance à une joint venture qui se nomme Sanlam Allianz. Cette opération annoncée depuis plusieurs mois devient donc effective dans 27 pays du continent, hors Afrique du Sud. Alors en quoi consiste ce mariage entre ces mastodontes, donc sud-africains et allemands, sur le continent? Écoutons les explications du rédacteur en chef de l'agence Ecofin, Idriss Lingé. Il nous parle cette fois depuis Addis Abeba, en Éthiopie.
Alors, ce que Sanlam et Allianz ont annoncé, c'est que finalement, ils sont parvenus à obtenir les autorisations nécessaires dans les pays afin de pouvoir acter leur fusion. Parce que jusque-là, c'était une annonce de fusion, mais il fallait que les régulateurs, aussi bien régionaux que nationaux, acceptent la fusion pour que cela puisse être effectif. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Sanlam et Allianz peuvent aujourd'hui collaborer dans le cadre d'une entreprise, co-entreprise, dans pratiquement 27 marchés africains.
Sanlam et Allianz opèrent tous les deux au Maroc, se pose donc tout naturellement la question de savoir comment ce nouveau couple va-t-il procéder dans le royaume. Écoutons les explications de Sana Araki. Elle est journaliste au quotidien marocain Les Inspirations Éco, spécialisée dans l'économie et la finance. Elle nous parle depuis la capitale économique du Maroc, Casablanca.
Au Maroc, les activités vont rester séparées. Les deux opérateurs vont continuer à fonctionner en tant qu'entité distincte. Côté transfert du capital, les deux assureurs détiendront conjointement le contrôle de Sanlam Allianz Africa par le biais de leurs entités Sanlam Emerging Markets Proprietary Limited et Allianz Europe. Cela entraînera une acquisition indirecte par Sanlam Allianz Africa des activités de Sanlam et Allianz au Maroc. Faut-il le rappeler, le Conseil de la concurrence avait précédemment exprimé des préoccupations quant aux effets anticoncurrentiels potentiels de cette fusion. En réponse, les deux compagnies ont soumis des engagements pour remédier à ces problèmes, notamment en restant concurrentes sur le marché marocain de l'assurance pendant une période transitoire, et procéder in fine à l'intégration de leurs activités. Alors aujourd'hui, il subsiste des incertitudes quant à l'issue de cette fusion au Maroc. À terme, y aura-t-il vraiment une fusion? effective des activités de Sanlam et Allianz ou pas? On pense dans ce sens à deux scénarios. Le premier étant que les deux assureurs seraient en course et seraient en train d'œuvrer vraiment pour respecter les engagements, leurs engagements envers le Conseil de la concurrence. Le deuxième constat ou scénario pousse à croire que le Maroc serait définitivement exclu de la fusion des activités commerciales et opérationnelles de Sanlam et Allianz. Un dossier à suivre de très près au vu de l'importance du marché marocain pour les deux opérateurs.
Le Maroc constitue donc une particularité dans le cheminement de ces deux groupes. La nouvelle joint venture ne manquera pas d'avoir des répercussions sur l'ensemble des activités du secteur des assurances sur le continent. Écoutons les explications de Idriss Lingier, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin.
Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le premier impact, c'est que cela créera un grand acteur des assurances en termes de primes acquises ou alors des primes émises en Afrique. Mais il ne faut pas avoir l'impression que cela perturbera les opportunités du marché des assurances, parce que cette fusion intervient dans un cadre où le taux de pénétration du service est assez faible. Il y a beaucoup trop peu de gens qui sont assurés en Afrique et les opportunités de croissance sont quasiment intactes. Donc, du coup, est-ce que deux gros groupes d'assurance qui décident de mutualiser leurs ressources afin de tirer parti d'un marché qui est étroit et logique? Oui, mais est-ce que ça va perturber les opportunités? Non. Les opportunités resteront là. Les assureurs qui voudront cibler les pays africains auront toujours de vastes marchés à conquérir. Et nous pensons que voilà, ça bousculera peut-être le volume actuel des primes disponibles, mais ça n'enlèvera en rien les opportunités qui existent, parce que la marge de croissance est encore extrêmement élevée.
Coémergence, l'invité.
Notre invité s'appelle Kwame Senou. Il est le président de l'agence Holding Opinion and Public. Avec lui, nous parlons de la nécessité de réadapter la communication des gouvernements dans le contexte actuel marqué par des bouleversements politiques sur le continent. Avec Kwame Senou, nous allons également évoquer la conférence internationale sur les gouvernements et les communications prévue en novembre prochain à Abidjan. Bonjour à vous, Kwame Senou, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Baldé, c'est un plaisir pour moi.
Alors, le plaisir est partagé. Alors, nous vivons dans un contexte, je dirais pas trouble, mais quand même plein de bouleversements, notamment sur le plan politique. On a l'impression que les populations en demandent plus, sont devenues moins, en tout cas plus exigeantes avec leur gouvernement. Dans ce contexte, quelle peut être l'utilité de la communication?
Nous vivons effectivement dans des temps difficiles que l'armée américaine a défini comme étant volatiles, incertains, complexes et ambigus. Et dans ce genre de contexte, les populations attendent plus que des informations. Elles attendent une vision claire, une direction aux choses et une certaine transparence dans l'action de l'État. Si vous ajoutez à tout ça la croissance de la pénétration des réseaux sociaux et de l'environnement digital en général sur le continent, vous avez un cocktail où la communication doit être à double sens et non plus seulement dans le sens du gouvernement vers les populations. Et c'est là où le challenge se pose, parce que essentiellement sur le continent, les gouvernements sont restés en mode information, comme à l'époque de la télévision publique unique, de la radio publique unique ou du quotidien national unique. Cela n'est plus possible aujourd'hui parce que les populations en demandent beaucoup. Les populations en demandent beaucoup, mais la communication vient alors écouter et répondre. Et c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir la communication comme d'abord un moyen d'écouter et ensuite de répondre aux populations, et moins un canal pour juste dire des choses.
J'imagine que les attentes sont le plus souvent économiques pour les populations, notamment une croissance inclusive, mais aussi les emplois. Sur ce plan-là, qu'est-ce que les gouvernements africains, qu'est-ce que les institutions ont à dire à leur population?
Je pense qu'il faut d'abord regarder les chiffres, et les chiffres sont clairs. Si vous prenez ceux de l'Institut Afrobaromètre, vous voyez clairement que les attentes de nos populations sont restées les mêmes et sont très précises. Une croissance inclusive, vous l'avez dit, de l'emploi, la santé, l'éducation, des opportunités. Donc, une communication qui ne tient pas compte des attentes des populations est amenée à échouer. Mais il y a également que la communication doit tenir le langage de vérité, parce que dans l'environnement politique, il est même admis qu'un politicien qui ne ment pas n'est pas un bon politicien. C'est une erreur, parce que les politiciens promettent à chaque élection, vous voyez, nous allons conduire le développement. Sauf que à la réalité, le développement ne peut pas être l'affaire d'un seul mandat. 5 ans, c'est trop court à l'échelle de la croissance économique. Donc il y a ce langage de vérité, d'intégrité à ajouter. Mais le troisième aspect, c'est quand même que les gouvernements doivent prendre conscience du fait, et quand je dis gouvernement, j'entends secteur public, que ce soit les agences publiques, le gouvernement central lui-même, les ministères, les sociétés publiques ou les sociétés qui exercent une concession du domaine public. Mmh. Ces parties prenantes doivent comprendre qu'elles ne sont pas crédibles. Les chiffres le montrent, les politiciens sont les moins crédibles en termes de confiance de la part des populations. Mmh. Ça veut dire que communiquer aujourd'hui, c'est quand même réduire la part de prise de parole des parties prenantes qui sont perçues comme peu crédibles pour augmenter celles des parties prenantes plus crédibles, comme les leaders religieux, les leaders traditionnels, la société civile dans certains pays. C'est vraiment ça qu'il faut explorer et non continuer à mettre les ministres au devant de la communication. La communication devient moins une affaire de première personne, du singulier, et plus une affaire de première personne du pluriel.
Donc, plutôt nous que je. Alors, voilà. Cela dit, on sait qu'il ne peut pas y avoir de progrès économique sans stabilité. Alors, les élites politiques ou les élites économiques africaines, quelle communication, quelle approche doivent-elles avoir vis-à-vis de cette jeunesse afin de restaurer la confiance, de partager les fruits de la croissance et enfin, disons, d'avancer vers le progrès?
Je pense que l'élite africaine échoue dans son rôle d'éducation. Parce que c'est le premier aspect, finalement. Quand vous regardez le taux d'analphabétisme élevé, si vous vous rendez bien compte que le premier challenge, c'est, dans tous les plans nationaux de développement, il est écrit que le premier challenge, c'est celui du capital humain. Donc les élites africaines doivent comprendre que le premier investissement et même le langage de la communication, c'est l'éducation. Éduquer les populations à comprendre déjà la démocratie, qui est le mode de gouvernance que nous avons choisi. Et c'est pour cela que nous voyons des célébrations dans les rues quand il y a des coups. C'est parce que la démocratie comme modèle n'est même pas encore comprise par celles et ceux qui sont censés en bénéficier. Comprendre la démocratie, comprendre l'économie, mais comprendre aussi comment les politiques publiques sont mises en place et partager leurs idées sur ces politiques publiques. Au lieu de prendre des raccourcis ou d'accuser un tel, on est dans un monde global où nous serons toujours confrontés à des challenges aussi bien internes qu'externes. Le premier aspect de la communication des élites africaines doit être l'éducation.
L'éducation. Donc, pour favoriser cette croissance et ce partage donc, des fruits de la croissance sur le continent. Alors, Kwame, c'est nous. Il y a un autre aspect. C'est aujourd'hui, comment l'Afrique communique-t-elle? Est-ce qu'elle communique à travers sa propre expertise, ses propres réalités, ou ce sont des plans de communication élaborés ailleurs qu'on essaie d'appliquer au niveau du continent, que ce soit sur le plan politique comme économique, bien évidemment?
Il y a 3 déficits structurels sur la communication du continent. Premièrement, vous l'avez soulevé, c'est le déficit des hommes. C'est si dans le football, nous avons enfin nos coachs africains, dans la communication, nous sommes encore malheureusement tributaires des sorciers blancs, et ce qui n'est pas possible parce que les compétences existent, il faut juste leur faire confiance. Le deuxième déficit, c'est celui de nos médias. Est-ce que nous avons des médias d'envergure continentale ou même internationale? Et ça, c'est un investissement que les pouvoirs publics doivent comprendre qu'il faut faire. Avoir des médias importants, tous les pays émergents le comprennent et déploient leurs médias. Aujourd'hui, la Turquie a un média qui est très actif sur le continent, Israël en a, etc., etc. Je n'ai pas besoin de citer les médias traditionnels des grandes puissances. C'est un élément important pour pouvoir communiquer, parce que sans canal, pas de connexion entre l'émetteur et le récepteur. Et le troisième déficit, finalement, c'est ce narratif cohérent. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais les chiffres ne font pas la communication. Ce qui fait la communication, c'est un narratif cohérent qui explique ce qui est en jeu, pourquoi c'est important et comment ça bénéficie aux parties prenantes. Et l'Afrique n'a pas encore trouvé son narratif. Je parle de l'Afrique en tant que groupe de l'Union africaine, mais je parle aussi de l'Afrique en tant que pays. Quelle est la position d'un pays africain sur le climat? Si vous cherchez aujourd'hui, je suis sûr que vous aurez du mal, vous aurez des déclarations éparses, mais vous n'aurez pas un narratif cohérent qui dit c'est notre position, ça. La transition écologique, l'Union européenne et les États-Unis en parlent. Quelle est, nous, notre vision de la chose? Est-ce que nous allons continuer juste à suivre? Heureusement que le sommet sur le climat à Nairobi a permis de faire avancer la question du climat sur le continent et du point de vue du continent.
C'est important. Et j'imagine que ce narratif dont vous parlez sera évoqué lors de la première conférence internationale sur les gouvernements et les communications prévue donc à Abidjan en novembre prochain. Justement, quel en est l'objectif et en quoi devrait-elle faire avancer ce volet communication en Afrique?
Nous avons toujours vu des plaintes au sujet de la communication de nos pays. Nous nous sommes plaints à plusieurs reprises, que ce soit pendant Covid, que ce soit pendant la situation en Ukraine, la reprise économique après Covid, etc. Donc, quand vous regardez ces sujets, il y a un besoin de réformer la communication de nos gouvernements et de nos secteurs publics. Et c'est pour cela que nous avons pris l'initiative d'organiser la conférence internationale sur les gouvernements et la communication, la CIGC, ici à Abidjan, pour créer une plateforme où il y a un partage d'expériences. On n'en parle pas assez, mais il y a des bonnes choses qui se font aussi sur le continent. Donc, si le Maroc communique très bien son tourisme, c'est une expérience, par exemple, à partager avec les autres pays africains pour qu'ils puissent s'en servir. Le Botswana et le Cap-Vert sont considérés comme des pays économiquement développés sur le continent. Il serait intéressant de savoir quelle est leur approche dans la communication publique et comment ils mobilisent les parties prenantes. En Afrique de l'Est, il y a une certaine stabilité de la démocratie dans ces pays. Il y a des leçons à partager, etc., etc. Donc, quand vous regardez tout ce pool de compétences sur le continent, vous vous dites, la seule chose qui manque, c'est une plateforme pour pouvoir faire ce partage-là. Première chose. Deuxième chose, c'est pouvoir, je pense, partager avec les experts de la communication publique du continent les meilleures pratiques, avec des experts aussi bien locaux qu'internationaux, parce qu'il y a encore des domaines où nous avons des déficits, où il faut inviter des experts et partager avec eux leur expertise et les connaissances nouvelles. Le dernier aspect pour cette conférence, c'est vraiment de commencer à écrire l'histoire de la communication du secteur public africain en sortant de la conférence avec des éléments comme un manuel, un guide de la communication publique adapté aux réalités africaines, conçu et mis en place par des Africains.
Merci à vous, Kwame Senou. Je rappelle que vous êtes le président de l'agence Holding Opinion and Public. Vous nous parlez donc de ce volet communication en Afrique dans le contexte actuel de bouleversements politiques, mais aussi de la conférence internationale sur les gouvernements et les communications prévues en novembre prochain à Abidjan. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir.
Destination Echo.
L'Angola, c'est une économie d'Afrique centrale, très riche en ressources énergétiques, mais qui offre également des opportunités d'investissement dans de nombreux secteurs. Comment encourager les relations commerciales et favoriser les investissements entre le Maroc et l'Angola? Nous aurons donc la réponse avec Marco Yava Dalla. Bonjour à vous, Marco Yava Dalla.
Oui, bonjour, bonjour, monsieur Omar, bonjour.
Quels sont les secteurs porteurs de l'économie angolaise?
Merci beaucoup. Alors, les secteurs porteurs, je vais commencer par l'agriculture. L'agriculture est le secteur principal en termes d'investissement au pays, mais nous avons aussi ensuite l'industrie transformatrice. On peut aussi considérer, je vais dire, l'agronégoce. Voilà, donc sont les principaux, mais nous avons également voilà les secteurs du tourisme, l'hôtellerie, mais aussi voilà la construction ou même les transports. Voilà, ce sont les principaux voilà secteurs porteurs d'investissement en Angola. Mais en premier lieu, nous avons l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Comme je disais tantôt, c'est un pays que voilà est en train de pouvoir diversifier son économie, dont le focus est beaucoup tourné vers l'agriculture pour pouvoir transformer beaucoup plus au niveau local. Mmh. Au niveau local et en quelque sorte pour pouvoir aussi diminuer voilà les importations. Voilà, ceci veut dire que les pays misent beaucoup plus au niveau de l'agriculture et en conséquence attirent aussi beaucoup plus les investisseurs privés intéressés notamment à pouvoir investir dans ces secteurs. Les investisseurs privés peuvent être des nationaux, mais également des étrangers. Mm-hmm. Voilà, sont mm-hmm. les voilà.
Alors, en dehors de l'agriculture, quel autre secteur est porteur en Angola?
Alors, je vais dire, comme nous connaissons tous, le premier secteur, je voulais dire, c'est le secteur pétrolier. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Ça, c'est les premiers, je ne l'ai pas cité. Mm-hmm. C'est le secteur où, je vais dire, environ 80% de l'économie du pays est issu de ce secteur. Mm-hmm. Mais à part l'agriculture, on peut aussi considérer, voilà, aujourd'hui, on peut parler aussi des secteurs du tourisme. C'est bien évidemment que les chiffres ne sont pas assez élevés, mm-hmm. mais c'est aussi un secteur porteur. Voilà. Mm-hmm.
C'est un secteur,
mais nous avons également le secteur du transport. Oui, du transport aussi. Mm-hmm. Nous avons aussi le secteur du transport. C'est mm-hmm. un secteur qui ne cesse pas, en fait, de grandir.
Excellent. Je pense que c'est des indicateurs importants pour les investisseurs. Justement, Marco Yava Dalla, oui. Les investisseurs, est-ce qu'aujourd'hui il y a un intérêt que vous sentez hein, auprès des investisseurs angolais intéressés par le marché marocain ou bien dans le sens inverse, des investisseurs marocains intéressés par le marché angolais? Quelle est la situation?
Alors, merci beaucoup pour cette question. Je voulais dire, en fait, il y a vraiment un intérêt d'investissement dans les deux sens, même si cela n'est pas encore chiffré, je ne pourrais pas parler avec assez de précision, mais je voulais dire déjà, le Maroc, c'est un pays en termes d'économie ou même d'expertise, avance d'année en année, et du coup, ça permet en quelque sorte les entrepreneurs marocains ou même les entreprises de pouvoir investir dans les autres pays, voilà, notamment les pays d'Afrique. Et il y a vraiment aussi des investisseurs ou des entreprises marocaines qui sont intéressés à pouvoir investir au pays. Mais aussi, il y a un autre point que je trouve aussi essentiel, c'est beaucoup plus l'échange d'expertise, c'est-à-dire l'expérience marocaine dans les divers secteurs, surtout l'agriculture et autres aussi, ont cette volonté de pouvoir partager avec les autres pays. Mais dans le sens inverse aussi, il y a aussi une volonté de certains investisseurs ou entreprises qui ont cette curiosité de pouvoir aussi connaître davantage les secteurs ou l'économie marocaine. Voilà ce que je peux dire, mais de manière générale, je pense qu'avec un regard commercial, je peux dire que la tendance est beaucoup plus, en fait, dans les deux sens, avoir un certain intérêt d'investissement, pour le Maroc ou même pour l'Angola.
Marco Yava Dalla, je rappelle que vous êtes donc entrepreneur angolais. Vous nous présentiez l'économie angolaise, les opportunités d'investissement et les secteurs porteurs et surtout comment encourager les investissements entre les deux pays, le Maroc et l'Angola, et avec le reste de l'Afrique, bien évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, merci, monsieur Oumar.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur nos plateformes Médias Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Médias et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.